Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI, dans votre poste et comme vous en avez pris l'habitude aussi, eh bien grâce à Facebook Live, vous pouvez nous suivre en nous regardant et vous pouvez partager si vous aimez. Nous allons évoquer ce soir la CAN, toujours plus de matchs, mais avec des Lions de la Teranga au rendez-vous des huitièmes de finale après leur victoire sur la Namibie 3-0 avec un doublé de Sadio Mané et un but Ismaïl Assar. Nous en parlerons de ces Sénégalais avec un ancien Lion, Mamadou Niang, qui est à notre téléphone et que nous appellerons dans quelques instants. En tout cas, nous avons vu un héros aussi sur le terrain, le gardien du Kenya, Matasi. Je suis sûre que ça plaira à Franck Simon d'en parler ce soir. Bonsoir Franck.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous.
Merci d'être là, notre camarade. Vous avez vu sur son maillot, hein, c'est écrit, pour ceux qui nous regardent, France Football. Donc, ah oui. On vous voit, vous êtes vraiment c'est France pas, Football.
Je suis corporate, comme on dit. Voilà.
Le Maroc assure aussi sa première place après un sans faute, troisième victoire face au Bafana Bafana, alors que la Côte d'Ivoire se libère contre la Namibie en inscrivant 4 buts, mais Nicolas Pépé, resté sur le banc, doit-il s'inquiéter pour sa place de titulaire ? Et nous vous raconterons l'histoire d'un supporter qui a traversé le continent du sud au nord pour encourager son équipe, un récit signé Frédéric Quena. Demain, les écureuils joueront leur destin face aux lions indomptables. Alors dans la nature, ils auraient peu de chances de survivre, ces écureuils, face à des lions. Mais sur un terrain de foot, qui sait, tout est possible et les Béninois seront très attendus demain. Les Camerounais aussi, bien sûr. Et puis nous terminerons par un petit tour en Amérique du Sud pour la Copa América avec un retour sur les quarts de finale où la logique semble avoir un emporté d'un côté avec ce Brésil-Argentine et de l'autre, eh bien ce face-à-face Chili-Pérou qui écarte deux équipes a priori favorites et nous en parlerons avec Cindy Colmenares. Bonsoir Cindy.
Bonsoir Lenny, bonsoir à tous.
Notre consoeur vénézuélienne, bon le Venezuela est déjà sorti, c'est raté, hein, les Tintos.
C'était pas mal.
On y viendra. Et puis Nabil Djellit est à
bonjour
vos côtés.
Bonjour à tous.
Bonsoir Nabil. Radio Foot, c'est parti.
Et les Sénégalais dans le camp kényan avec Mbaye Niang, on est à 25 mètres, le centre de la gauche, la sortie de Matassi, il est un peu gêné, le contrôle d'Ismaïl Assar, c'est dedans. Et c'est dedans. C'est Ismaïl Assar.
Oh, il est beau.
C'est Ismaïl Assar qui reprend ce ballon directement dans la lucarne.
Oh, magnifique, la reprise de volée, là, franchement, pied droit, pleine lucarne, à bout portant, magnifique. Ouais, la récupération, fini. Attention, ils se sont gênés. Il a attendu, c'est Sadio Mané. Et c'est le but.
C'est le but de Mané.
C'est le but de Sadio Mané. Oh, sur une énorme mésentente. Le gardien qui sort et qui s'arrête. Le défenseur qui pensait que son gardien allait venir au devant du ballon, qui s'arrête aussi. Et Mané qui bouscule un peu, qui prend le ballon et qui vient crucifier le gardien Matassi pour inscrire le 2-0.
Allez, Sadio Mané qui s'élance et il va frapper. Et c'est arrêté.
Il était parti
du bon côté, Matassi. Il m'y a fait croire. Mais c'est dedans. 3-0 pour les Lions.
Un match que vous avez donc suivi, j'en suis sûre, sur RFI avec Olivier Pron et Antoine Grenier. Ce match où donc, eh bien, le Sénégal est sorti vainqueur de cette confrontation contre la Namibie. Ils ont répondu présent, mais on a dû attendre un peu peut-être, Franck Simon, que cette équipe du Sénégal montre ses griffes, montre ses crocs. Parce que en première mi-temps, on a attendu. Il n'y avait pas eu de match et surtout, même Sadio Mané avait raté un pénalty.
Il a fallu attendre l'heure de jeu, en fait, pour que cette équipe trouve enfin sa vitesse de croisière. C'est une équipe qui a été extrêmement gênée, en vérité, par l'équipe du Kenya, une équipe qui est athlétique, une équipe qui jouait son va-tout après leur victoire contre la Tanzanie. Et le Sénégal a été très perturbé par cette équipe très compacte, finalement. C'est vrai que le raté de Sadio Mané, on l'a senti, les a beaucoup déstabilisés en fait. Hein. Alors c'est le raté de Mané, mais c'est aussi la parade de Patrick Matassi, le gardien, parce que Non seulement il repousse, mais enfin il capte le ballon.
Non, mais on l'a vu surtout sur plusieurs parades, parce qu'avant celle-là, il y en avait eu juste une autre, et c'est vrai qu'on a vu un excellent gardien qui, jusqu'au premier but, va vraiment se battre pour sauver son équipe.
Alors, il a vraiment retardé l'échéance. Malheureusement, il est fautif, en fait, hein, sur le premier but, le superbe but de Sarr. Mmh. Il part un petit peu à la pêche sur ce ballon, sur ce centre aérien. Et il se déchire, il le manque, et puis le joueur de Rennes réussit un geste somptueux, un super but, et ça permet au Sénégal à ce moment-là de se mettre dans le bon sens et puis de faire une fin de match superbe.
Nabil, convaincu par cette équipe du Sénégal ?
Pas totalement, évidemment, puisque pour beaucoup c'est la meilleure équipe sur le papier. On l'a vu face au Kenya, douter d'abord psychologiquement. On sentait que c'était une équipe qui sortait d'une défaite face à l'Algérie dans le choc. De ce groupe, elle est à l'image pour l'instant de sa star, Sadio Mané, sur courant alternatif, mais j'ai aimé leur réaction. J'ai aimé aussi la réaction du champion, Mané, qui a été prendre ce deuxième penalty. On sait que c'est un garçon qui a pour l'instant une trajectoire ou un destin contrarié avec ses sélections nationales. On lui demande de porter, à l'instar d'autres joueurs, hein, Messi avec l'Argentine, Mahrez avec l'Algérie, Ziyech avec le Maroc, Rondon avec le Venezuela. Voilà, je veux dire, on sait que pour l'instant, pour lui, ça ne sourit pas totalement avec la sélection sénégalaise. Ensuite, le talent a quand même fait la différence, parce que autant Matassi, il se déchire, c'est vrai, mais autant il ne faut pas occulter quand même le geste de classe de Ismaël Assar sur cette situation.
Sadio Mané désigné homme du match, et c'est vrai qu'il manque un pénalty pour après en inscrire un, et après il a un contre un avec le gardien.
Il a d'abord le 1 contre 1 en fait, où il met un bon coup d'épaule d'ailleurs au défenseur kényan pour s'en débarrasser. Ça n'a pas été sifflé, mais ça peut siffler. Et puis il transforme effectivement ce penalty en changeant de côté, et ça fait 3-0. Et alors on regardait le match avec Nabil tout à l'heure. Il y a quand même juste avant le premier but
une énorme situation.
Il y a une grosse situation où le gardien de but remplaçant du Sénégal fait une parade, et à ce moment c'est sans doute le tournant du match sur cette frappe.
Cindy, Sadio Mané, convaincant ?
Oui, après, c'est vrai que par rapport au match, j'ai trouvé que les Lions de la Teranga ont eu du mal à rentrer dans leur match, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que pour attendre les premiers tirs cadrés, il aurait fallu attendre à peu près une vingtaine de minutes au niveau du match. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Après, il est vrai que les gardiens de but, Kenyan Matassi, a fait une excellente prestation, comme vous l'avez dit, Annie.
Impressionnant au début, disons, parce qu'après...
Oui, après, il y a eu aussi la prestation de Koulibaly. À un moment, il a rattrapé, en fait, une passe. Pourtant, c'est un défenseur, mais il a fallu aussi marquer. Et c'est grâce à Matassi qui n'a pas eu but à ces moments-là. Donc, moi, j'étais un peu surprise, parce que finalement, les Sénégal, c'était une équipe qui a beaucoup de joueurs, des bons joueurs qui sont à l'infirmerie. Donc, il y a Sané, il y a aussi Diagne. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont avoir du mal, mais finalement, ils ont eu du mal... La première période, après, ils se sont montrés beaucoup plus agressifs, et c'est les physiques qui l'ont emporté.
Alors, pour évoquer cette rencontre et ce match tant attendu, parce qu'il signifiait qualification, nous sommes en ligne avec Mamadou Niang. Alors, je ne sais pas s'il faut vous le présenter. Ancien Lion aux 56 sélections, qui a disputé 4 CAN, ancien capitaine aussi de cette équipe du Sénégal, ancien joueur de l'OM, pas encore retraité du monde du football, on va en parler. Bonsoir Mamadou Niang.
Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous appelle à Marseille, hein, où vous vous êtes longtemps illustré. D'abord, donnez-nous votre avis sur ce match et surtout la prestation des Lions du Sénégal. Comment les avez-vous trouvés après, évidemment, le match qu'on avait beaucoup regardé contre le Maroc?
C'était un match très compliqué pour nous. On le savait avant même de le jouer, parce que... La défaite contre l'Algérie nous a mis un peu plus de pression. On aurait aimé partir de ce match contre l'Algérie avec 6 points. Et on arrivait face au Kenya, je dirais, avec un peu plus de pression en nous. On savait qu'on allait tomber contre une équipe qui allait jouer regroupée, qui allait nous attendre et qui allait essayer de nous contrer. Ils ont bien réussi à le faire à une ou deux reprises. Et surtout, on n'arrivait pas à marquer... En premier temps, on a manqué d'efficacité et ça a joué le penalty. Donc ça a rajouté encore un peu plus de pression, mais en deuxième temps, je pense que le but de Ismaël Assar nous a libérés.
Est-ce qu'ils vous ont peut-être, je dirais, rassuré alors ces Lions du Sénégal dans ce match?
Rassurer, je pense pas, parce que bon, ça a été un match compliqué, même si j'ai dit tout à l'heure, c'était pas une équipe qui jouait très regroupée. On a eu la possession du ballon, on a essayé de faire tourner, mais je pense qu'il n'y avait pas encore assez de mouvement. Sergio est encore, en rodage, on va dire, après sa longue saison avec Liverpool, il doit retrouver les jambes et amener un peu plus, mais ça, je m'inquiète pas pour lui. Et c'est Malassar qui est revenu aussi un peu de blessure. Donc voilà, c'est une victoire qui peut amener de la confiance pour la suite, mais ça va être compliqué parce qu'on tourne contre l'Ouganda, et l'Ouganda, ce sera pas une équipe facile à jouer.
Mamadou Diang, une autre question, vous l'avez entendu sans doute avant ce match, on a parlé du mental du Sénégal avec des questions de confrères qui là-bas demandaient s'il y avait du mental. Évidemment, comme quelqu'un avait dit non, on a entendu la réponse assez ironique ou peut-être courroucée un peu aussi d'Aliou Cissé. Est-ce que vous pensez que le problème du Sénégal, c'est le mental ?
Non, je pense pas. On avait, on disait aussi la même chose quand moi j'étais en sélection, qu'on manquait un peu de mental. Non, je pense pas que c'est ça. Après, vous savez, quand vous jouez pour votre pays, votre nation, c'est toujours avec beaucoup plus de pression parce qu'on a envie toujours de bien faire pour le peuple sénégalais. On a toujours envie de donner et des fois on le fait pas très bien parce qu'on dû à, je sais pas, à l'excès d'envie et des fois ça nous a fait défaut. Après le mental, je pense que aujourd'hui on a des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens comme Sadio Mané, comme Koulibaly, comme Diagne, comme Ismaël Assar, donc la pression ils connaissent, ils jouent la Coupe d'Europe chaque année, donc je pense pas que c'est une question mentale.
Nabil Djellit a une question pour vous.
Bonsoir Mamadou.
Bonsoir.
Ouais, ma question c'est la suivante, c'est d'un Niang à l'autre, je voulais avoir un peu votre avis sur la prestation de Mbaye Niang depuis le début de cette compétition. Alors je vous cache pas que moi j'ai des doutes, peut-être dans son utilisation, est-ce qu'il ne serait pas mieux à deux devant, est-ce que c'est pas non plus un joueur dans un 4-3-3 plus un joueur de côté, alors évidemment sans mettre de notes ni de quoi que ce soit, moi j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez en tant qu'ancien grand attaquant de l'Olympique de Marseille.
Ben, ce qui lui arrive, c'est ce que je m'attendais à ça par rapport au premier match, parce qu'il a loupé énormément d'occasions. Et pour un attaquant, louper autant d'occasions sur un match, surtout sur le premier match de Cannes, ça laisse la porte ouverte au doute. Et j'avais peur de ça, un peu, que sur les matchs qui suivent, Mbaye se mette un peu la pression, commence à cogiter. Et ce qui arrive actuellement. Mais au niveau de ses déplacements, au niveau de points d'appui, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui garde bien le ballon, qui joue bien en déviation. Maintenant, il doit retrouver cette efficacité, il doit marquer ce but qui, à mon avis, va le libérer.
Mamadou Diang, une question encore. Est-ce que vous sentez... comment interpréter peut-être le fait d'arriver sur une compétition avec le statut de favori, et ça arrive souvent au Sénégal ces derniers temps. Est-ce que c'est difficile de porter finalement ? Est-ce que c'est un fardeau ?
Non, je pense pas, parce qu'ils ont tout fait pour arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, on est la première nation africaine au classement FIFA, c'est pas pour rien. Donc, c'est un statut qu'ils ont voulu obtenir, maintenant qu'ils doivent assumer. Et aujourd'hui, quand on regarde sur le papier, on a des joueurs qui peuvent aujourd'hui battre n'importe quelle équipe, et ça il faut qu'ils en prennent conscience, il faut qu'ils assument leur rôle de favori, et voilà. Après, c'est pas parce qu'on gagne pas les trois matchs en poule qu'on peut pas aller jusqu'au bout. On peut remonter il y a deux ans quand le Cameroun a gagné à Cannes, ils ont eu des matchs de poule aussi très compliqués, et pourtant ils ont réussi à aller au bout. Donc voilà, il faut qu'ils s'inspirent de ça, il faut qu'ils prennent confiance en eux, et puis je pense que à partir des huitièmes, ça va aller.
Oui, ça va surtout devenir de plus en plus stressant, en tout cas au moins pour ceux qui les regardent. Maman Oudiang, avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une question sur votre plan, sur vous, votre carrière. Maintenant, vous êtes entraîneur adjoint de l'Atlético Marseille, qu'on connaissait comme équipe auparavant de Consola, hein, à Marseille, qui a fourni beaucoup de joueurs à l'OM à un certain moment. C'est le deuxième club de la ville. Est-ce que vous avez envie aussi de devenir entraîneur, voire sélectionneur?
Bah écoutez, pour l'instant, je ne pense pas trop à ça. Je suis en train de passer du diplôme. Je prends surtout beaucoup de plaisir à me lever tous les matins pour aller entraîner ces jeunes, à faire partager mon expérience, les conseiller aussi, parce qu'ils sont demandeurs de ça. Ils me posent énormément de questions. Donc voilà, pour l'instant, ça me plaît ce que je fais. Je suis très bien, au poste où je suis pour le moment. Et voilà, je prends du plaisir. Et surtout, j'apprends.
Ouais. Plutôt entraîneur que chanteur ?
Ah non, ça c'est sûr et certain.
Parce qu'on vous voit souvent dans des clips avec les chanteurs marseillais. C'est pour ça que je disais ça. Merci beaucoup.
Non, c'est des amis.
Merci, oui, j'imagine. Merci beaucoup, Mamadou Niang, d'avoir été en direct dans Radio Foot International, une émission qu'on écoute aussi là-bas du côté de Dakar. Et ils ont pu vous entendre, nos auditeurs, grâce à vous et grâce à l'émission. Merci beaucoup.
Merci à vous. Allez.
À bientôt. Merci. Voilà pour ce qui est donc du Sénégal. Donc le Sénégal, bon, bah, on ne sait pas encore hein, contre qui ils tomberont.
A priori, l'Ouganda. Non, Franck ?
C'est déjà. Ouais,
c'est ce que lui disait. Mais c'est marrant qu'il fasse allusion à ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi où ils s'étaient retrouvés en tête de leur groupe et grand favori pour la suite. Et puis ils sautent du coq à l'âne parce qu'ils ont quand même été éliminés au tir au but par le Cameroun, futur vainqueur. Et là, il est en train de dire. Inspirant nom du Cameroun il y a 2 ans et demi, mais il évite à tout prix de rappeler ce qui s'était passé. Parce que il y a 2 ans et demi, Nabil, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils étaient, là encore, ils étaient très favoris, nos
amis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Franck, plus que des lions, c'est des aigles qui planent parfois l'équipe du Sénégal, non, c'est ça ?
Je sais pas.
Vous voulez dire quel syndrome de la montgolfière ?
Pas totalement, mais bon.
On après, a bien compris. Se sentir fort parfois, avoir du caractère, ça aide aussi à gagner des compétitions. C'est aussi des équipes qui ont besoin.
C'est à voir. Ils ont pour l'instant rien gagné. Hein.
Donc ça sera Ouganda.
Je vous rappelle, cher Namil, qu'ils n'ont encore rien gagné. Ils ont une finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était au Mali en.
Ouais, mais ils ont eu la piqûre de rappel avec l'Algérie et je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il aura.
Donc ça sera Ouganda Sénégal.
C'est ce que lui disait. Hein, j'ai pas le tableau.
A priori, oui, deuxième du groupe A. C'est pas facile. Deuxième du groupe C. Oui, exactement.
Parce que vous parliez avec un Marseillais. Du côté de l'Ouganda, il y a un garçon qui peut vous faire danser le Mia.
Oui, Farouku.
Dans le même groupe, on avait une autre équipe ce soir qui jouait. C'était le
Kenya contre l'Algérie.
Le Kenya contre l'Algérie, pardon.
La Tanzanie contre l'Algérie.
La Tanzanie, pardon, oui, le Kenya jouait contre le Sénégal. Il y avait 4 matchs aujourd'hui, c'est vrai qu'on est enfin, nous aussi, de phase de poule. Nabil Djellit, l'Algérie, alors là, Clarinette 3-0.
Ils ont déroulé, ils ont mis une équipe de remplaçants, 9 remplaçants. Par rapport aux 2 premiers matchs, ils ont fait tourner. En première mi-temps, ils ont plié les débats face à une équipe tanzanienne qui effectivement était déjà quasiment éliminée. Maintenant, l'Algérie, c'est de savoir est-ce que voilà, c'est un autre tournoi qui va commencer. Elle a fait le plein, elle a réussi notamment à battre le Sénégal. Est-ce que l'Algérie est un client pour le sacre final? Très sincèrement.
À suivre en tout cas, avec intérêt.
C'est une équipe qui paraît dangereuse.
Première du groupe.
Voilà. Mm-hmm. Maintenant, c'est les matchs couperés, c'est un autre tournoi, c'est aussi notre dimension psychologique. C'est une équipe qui a fait le plein de confiance. On verra.
On verra ça.
Et il marche sur des œufs, vous avez vu, Annie.
Oui, mais parce qu'il marche avec les cœurs.
Il est tellement pétochard.
Franck, tu sais très bien que les équipes qui commencent très bien, Maroc, Algérie, Égypte, elles ont super bien commencé le tournoi. Je suis sûr qu'on se donne rendez-vous dans 2 semaines ici.
Tu croises les orteils, tu croises
normal.
Les doigts. Comme
c'est
ça,
mon affect. Si tu me demandes mon affect,
évidemment. Ils voulaient faire les couler à Colombie. En fait, ils s'encaissent pas des buts, mais en fait, ils se font éliminer.
Si vous me demandez mon affect,
voilà. America, bonjour.
C'est bien. Si vous me demandez mon affect, évidemment que ça me ferait plaisir que l'Algérie aille au bout, surtout ce que vire en ce moment le pays. Je pense que ça mettrait du baume au cœur à tout le monde.
Mais après, je te rejoins pour les Vénézuéliens.
Après, il faut rester lucide et rationnel. Vous disiez, Franck, à juste titre, que le Sénégal n'a rien gagné. L'Algérie, ça fait 3 ans qu'ils n'ont rien fait. Ils viennent juste d'enchaîner 2 bons matchs. Hein.
Donc, c'est des gros outsiders. Donc.
Voilà. Alors, il y avait une autre équipe aujourd'hui pour laquelle on avait un gros intérêt. Et cette équipe, c'était la Côte d'Ivoire.
Qui met dans la profondeur, il n'y a pas de hors-jeu, c'est bien joué. C'est le but,
voilà.
Le but de Max Allain, Gravel. Oh qu'il est beau, il est parfaitement lancé par Caissier. L'ouverture du score ivoirienne à la 40e minute. La frappe de Tadi, elle est déviée, le gardien qui est pris à contre-pied, qui ne se détend pas. Cette fois, les trois points semblent dans la poche. Kamatouka qui va pouvoir marquer.
Eh ben ça fait 2-1, ça va nous faire 20 dernières minutes plutôt plaisantes à suivre. Caissier qui s'approche, qui rentre dans la surface, qui décale bien vers Zaha, qui s'abête sur son pied, qui frappe et qui marque.
Wilfried
Zaha, tranquillement, il a pris son temps, 3-1.
On récupère, la frappe et encore le but. Le but ivoirien, le quatrième, c'est Maxwell Cornet qui récupère ce ballon. 4-1, maintenant à la 89e minute.
Allez, des musiques qui donnent envie de danser dans ce studio. Alors le résumé du match auquel assistaient Olivier Pron et Christophe Jousset
avec Joseph
RFI,
Antoine Bell,
bien sûr,
qui était commissaire du match. Il arrive quand même à faire plusieurs choses en même temps, l'ami Joseph Antoine Bell. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Commissaire du match pour la CAF et en même temps en train de commenter.
Ah, vous voyez,
c'est un homme orchestre. C'est pas moi qui dis, c'est la feuille.
En tout cas, carton plein pour les favoris du groupe D, Côte d'Ivoire et Maroc. Les éléphants ont donc écrasé les Namibiens en inscrivant 4 buts. 4-1, alors on va en parler de ce but, c'était quand même une relance, erreur de relance du gardien ivoirien. Mais les éléphants ont été efficaces. Heureux, les Ivoiriens, donc, d'avoir beaucoup marqué. Et c'est ce qu'explique Geoffroy Sérédier, le capitaine du soir. Il remplace Serge Aurier. Il est au micro de David Kalfa, le meilleur homme du match.
On a été concret parce que les autres matchs, on avait des occasions contre le Maroc. On n'a pas pu concrétiser contre l'Afrique du Sud aussi. Et puis j'espère qu'on va continuer comme ça. Je vais vous dire, on ne va pas faire la fine bouche parce qu'on a gagné 4-1. C'est vrai qu'on a des choses à corriger. Maintenant, aujourd'hui, on a gagné, on va savourer, mais dès demain, on commence à bosser.
Alors, ils étaient face à des Brave Warriors, qui n'avaient jamais remporté de match à la CAN. Sérédier dit, on va commencer à bosser, mais là, il fallait absolument se rassurer. Franck, cette équipe qui est à vous tient à cœur, n'est-ce pas?
Absolument. Je peux vous dire que...
Nous attend avec impatience, Franck,
absolument,
sur ce dossier.
Du côté d'Abidjan et d'Angré, je salue ma famille. Tout le monde a suivi le match.
J'imagine.
Ouais.
Et les hommes de Camso,
Camara,
donc il avait fait quelques changements, mais en tout cas, ça a été efficace.
Ça a été efficace, mais c'est là
qu'ils ont mis du temps.
Ouais, bon voilà, ils ont attendu la fin de la premier acte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant cette compétition, comme vous le savez, ils étaient aux Émirats et ils se sont préparés, notamment en jouant contre la Zambie. La Zambie qui est éliminée, qui est pas dans ce tournoi, mais qui est aussi une équipe d'Afrique australe dont le jeu se rapproche trait pour trait du jeu de la Namibie. Et ils avaient réussi aussi un joli petit festival offensif. Ils s'étaient rassurés. Il y avait eu Bonny notamment qui était là. Il y avait Zaha, il y avait Cornet. Bah, ce soir, c'était les hommes qui ont brillé.
Qui a brillé, c'est
voilà, ça, donc ça aide. En fait, ils ont joué une équipe qui ressemblait tellement à cette équipe-là. Et ils avaient été super convaincants. Ce soir, alors, c'était un petit peu poussif au début. Et puis, à mesure qu'on a avancé dans le match, ils se sont
retrouvés. Installés. Hein.
Bon, on a un petit peu tremblé, effectivement, quand il y a eu, à la 71e, cette relance totalement ratée de Sylvain Gbowo, le gardien de but, et de Mazembe, et des éléphants. Mais ils ont su donner ce petit coup de collier et accélérer pour offrir une victoire qui est, somme toute, très, très, très logique, très rassurante pour la suite. Bon, ce n'est que la Namibie. Il y a un joueur qui s'est beaucoup illustré, je ne sais pas si on va en parler, c'est Caissier Franck, qui a réussi 3 passes décisives dans la rencontre, le joueur du Milan.
Oui.
Donc ça, c'est à retenir aussi au passage dans cette équipe, puisque lui était reconduit au milieu de terrain.
Ah oui. Cindy, sur ce match de la Côte d'Ivoire, avec des joueurs effectivement qu'on voit beaucoup évoluer, notamment dans le championnat de France, mais aussi pour certains.
Très intéressant.
Mais pas Pépé.
C'est vrai que c'était quand même assez intéressant. Ce sont les champions d'Afrique 2015. Donc évidemment, il y avait beaucoup d'expectatives face à un petit Namibie où vraiment ils s'étaient déjà éliminés d'office. Mais il est vrai que les buts dégradés, là, étaient vraiment libérateurs. Lui, qui est un ancien des Saint-Étienne, Saint-Étienne, pardon, et qui a réussi du coup à marquer pour libérer toute l'équipe. Et après, un but qui m'a beaucoup marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est évidemment celui
la frappe des cornets.
Il est toujours très rapide, donc c'est toujours très intéressant de voir ces joueurs de l'OL briller donc avec son pays. Juste, oui, évidemment, je reste assez étonnée de l'absence des PP, mais finalement, c'est compréhensible.
Mais
c'est compréhensible.
C'est
compréhensible, c'est vrai, parce que il est vrai que lors de son dernier match, il n'était pas si efficace, mais c'est vrai que quand on le voit jouer en Ligue 1, on s'est dit, c'est quand même les meilleurs joueurs africains des Ligue 1 avec 22 buts, 11 passes décisives. C'est quand même un super joueur que je pense que pourrait apporter quelque chose à l'équipe. En tout cas, bon, là, ça s'est avéré gagnant, en tout cas, les stratégies. Ouais.
Cette équipe de la Côte d'Ivoire, hein, qu'on voit, pour ceux qui nous regardent à travers le Facebook Live, ils peuvent voir les images tournées par nos envoyés spéciaux, notamment Dominique Fian, qui était à l'entraînement. On les voit arriver à l'entraînement. Vous la comprenez ? Vous le comprenez, le choix de l'entraîneur et d'avoir laissé Nicolas Pépé sur le banc, Nabil ? Alors, on l'a vu, hein, c'est vrai qu'on l'a vu sur les deux premiers matchs. Alors, est-ce qu'il n'a pas encore bien pris ses marques ? Est-ce qu'il est fatigué ? Bon, on se pose toujours des questions autour de ces joueurs.
Ça peut être de la gestion d'effectifs, on verra. En tout cas, il s'est peut-être créé...
Est-ce qu'il a perdu gros ?
Il a eu
4 buteurs différents.
Oui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça stimule et que l'émulation, c'est bon pour un groupe. J'espère qu'il n'a pas perdu Nicolas Pépé à cette occasion, parce que c'est quand même un joueur qui peut rendre plus que des services. Dans quel rôle maintenant, en joker ou en titulaire ?
C'est sa première aussi,
c'est
non
une autre en histoire.
En revanche, c'est la première en Cannes, donc forcément, il lui faut du temps. Ouais,
si je peux me permettre, quand même, moi, ce n'est pas Nicolas Pépé, moi, qui m'interpelle dans cette histoire. Moi, j'ai des doutes sur le coach ivoirien, mais en autogestion, on ne sait jamais que ce groupe, il y a quand même des garçons expérimentés qui ont déjà gagné la coupe d'Afrique des Nations. Mais comment on peut m'expliquer, je le dis et je leur dis, qu'on puisse laisser un garçon comme Wilfried Zaha, qui est pour moi, et je le dis et je leur dis, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, hors Big Six, hors 6 meilleures équipes du championnat d'Angleterre, sur le banc, sur deux matchs.
Il était titulaire aujourd'hui. Hein,
oui, d'accord.
Mais... Et il a marqué.
C'est étonnant.
Il l'a piqué pour le coup. Et puis c'était aussi.
C'est pas une piqûre, il a joué avec le fou.
Non, mais c'est aussi une gestion qu'il a eue avec Wilfried Zaha pendant les éliminatoires. Un coup, il est là, un coup, il est pas là. C'est aussi les états de forme des uns et des autres. Peut-être que, comment dans le cas de Nicolas Pépé.
C'est peut-être ça qu'il fait avec Pépé.
Oui, voilà. Peut-être dans le cas de Nicolas Pépé, il y a aussi l'histoire de peut-être d'une négociation de transfert. Peut-être que ça lui prend la tête. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Pépé en équipe nationale depuis un an et demi, là il a marqué tout récemment au mois de mars contre le Rwanda, mais c'est pas le Nicolas Pépé qu'on connaît
mais
en club.
C'est pas le même collectif,
c'est pas les mêmes joueurs.
Mais il faut du temps aussi pour qu'il s'y habitue. Ouais, là c'est sa première CAN, il a très peu d'expérience finalement avec son équipe nationale.
Faut que je suis d'accord, mais faut comprendre qu'il va pas détricoter son équipe pour un joueur. Peut-être que la prochaine finale de Coupe d'Afrique, il bâtira effectivement son secteur offensif en s'appuyant sur Nicolas Pépé. Ce qui serait
pas
mauvais.
Il faut lui donner sa chance
il va être frais pour le huitième de finale, ce qui n'est pas plus mal.
Il va énerver aussi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais pareil, Annie, je veux dire, Seri qui est utilisé en numéro 10.
C'est pas son poste.
Il y a quand même. Moi, j'ai quand même.
Qui n'était pas sur la pelouse.
J'ai quand même quelques interrogations. Et moi, ils m'ont alerté plus parce que là, finalement.
Mais il y avait eu beaucoup de critiques sur la composition au dernier match. D'Ibrahima
Camara.
On se souvient notamment, on avait Olivier Pron en ligne qui nous racontait qu'il y avait des choix qu'il ne comprenait pas. On a l'impression quand même que là, il y a eu, alors j'appellerais peut-être pas sa correction, mais en tout cas, il y a eu des changements.
Oui, mais il y a eu des changements, mais franchement, est-ce qu'on peut réellement savoir l'état de cette équipe ivoirienne ? Parce que finalement, jouer contre l'adversaire le plus faible, qui je dis pas
est-ce
de bêtises.
Est-ce qu'au premier tour, on sait toujours le niveau des équipes ?
C'est une équipe qui était à 0 points.
Non, mais Nabil.
Non, mais je suis pas en train de réduire ce qu'ils ont fait.
Un peu quand même, parce que je te rappelle que le Maroc,
ils se sont fait jongler. Hein. Ils ont rien compris.
Oui, mais contre 1-0, le Maroc, c'était gentil. 1-0 contre le Maroc.
Oui. Enfin, t'as vu la maîtrise des Marocains dans cette histoire. L'équipe de Côte d'Ivoire,
ils en mettent 4. Ils ont été jusqu'au bout de l'effort. Ouais. Ils se sont peut-être aussi un petit peu rassurés. Les joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu, ils ont marqué aussi. Oui, mais pour l'instant, ils y sont.
Et contre qui
on leur a demandé ?
Les Ivoiriens.
Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas l'état du tableau, mais c'est dans
ça
tous les
sera
cas,
le premier
ça sera,
du groupe E.
Ça
donc
sera compliqué.
On ne sait pas encore.
Bah, si c'est entre le Mali, ça peut être le Mali ou la Tunisie.
Ça peut être la Tunisie.
C'est accessible pour eux.
Bah, on verra.
Si c'est
en tout cas,
c'est pas mal.
Dans ce même groupe, Nabil, les Lions de l'Atlas, ils ont fait carton plein, hein, tout comme l'Égypte. Ils ont gagné leurs trois matchs, inscrit 9 points. Donc, on le disait tout à l'heure, hein, les trois équipes du Maghreb,
du
voire
nord de l'Afrique,
du Machrek. Assiste-t-on à la montée en puissance de l'équipe d'Hervé Renard? On sait que c'est un peu la caractéristique des équipes d'Hervé Renard, c'est-à-dire de dévoiler un peu leur style et leur puissance au fur et à mesure.
Vous avez raison, c'est ce qu'il avait fait avec la Côte d'Ivoire. Bon, la Zambie, c'est une autre histoire, c'est une belle histoire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel ce qu'il a réussi. C'est vrai que cette équipe marocaine, par rapport à son premier match face à la Namibie qui s'était joué à 16h30, elle donne le sentiment de progresser, de monter en puissance. Il y a des hommes forts qui s'affirment. Il y a un garçon dont on ne parle pas beaucoup, à mon sens, qui est extrêmement important. Autant on connaît le leadership de Mehdi Benassia, mais Romain Saïs, derrière, le joueur de Wolverhampton, franchement, c'est très costaud, c'est solide. Et là où c'est presque rassurant, j'ai envie de vous dire, c'est qu'ils font tout ça sans un grand Hakim Ziyech. On sent qu'il essaye de s'imposer comme le leader de cette équipe, peut-être à l'instar d'un Pépé, même si lui joue dans un autre rôle puisqu'il est davantage meneur de jeu. Mais pour l'instant, on ne sent pas l'empreinte ou la patte Ziyech sur cette équipe marocaine. Mais après, vous avez des hommes forts. Par exemple, il y a un garçon qui est extraordinaire en sélection marocaine. On a déjà dit ici, mais c'est Amrabat. Nourdine Amrabat, buffle, c'est
souvent,
incroyable.
Souvent un des meilleurs joueurs du match.
Donc cette équipe marocaine, c'est une équipe qui est très sérieuse et qui peut croire forcément en ses chances.
C'est une équipe, moi franchement, j'ai vu de la solidité, effectivement, j'ai vu de la discipline collective, j'ai vu surtout la marque d'Hervé Renard partout où il est passé en Afrique. C'est un entraîneur qui est d'abord un entraîneur pragmatique, rigoureux. La défense d'abord, ne pas encaisser de but. Donc, on le retrouve dans cette équipe marocaine. Pour l'instant, ils ont super bien géré. Ils ont su aussi peut-être un petit peu s'économiser. Ils n'ont pas forcément dévoilé beaucoup de choses. On va voir maintenant, à partir des matchs coup près, ce que ça va donner. Je suis un peu sceptique. J'ai pas tout vu.
Vous avez des doutes?
J'ai des doutes.
Sur quoi? Sur le, il y a pas
de buteur? Pas sur la couleur des éléphants, mais sur la couleur des lions, oui.
Ouais. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, Franck, c'est qu'on se retrouve un jour à ce micro-là, et on pourra débattre très tranquillement.
Je pense que j'ai des chances que ça arrive bientôt.
Ça devrait, voilà.
Le Maroc, en tout cas, a gagné aux dépens de l'Afrique du Sud, des Bafana qui pourront encore peut-être se qualifier. On est dans les calculs, là.
C'est pas impossible parce qu'ils ont, à la différence, ils sont, je crois, à moins un, là.
Ouais. En tout cas, un supporter sud-africain devait être bien triste d'assister à cette défaite, lui qui a traversé le continent du Cap au Caire pour encourager son équipe. Frédéric Nkena, notre correspondant au Caire, l'a rencontré. Il s'agit de Botam Silla, un homme de 44 ans, originaire de Bloemfontein, en Afrique du Sud, là où la
c'est
Coupe
celui
du
qu'on
Monde
voit en tribune avec
un turban blanc.
Turban blanc, le turban
Zoulou.
Exactement.
Et on va le voir d'ailleurs sur les images ici qu'a tourné Dominique Fian du côté de l'Afrique du Sud. En tout cas, il a tellement gagné le respect des joueurs, cet homme qui a fait tant de kilomètres et qui a affronté tant de routes et de kilomètres, eh bien, qu'il est logé, il séjourne dans l'hôtel des joueurs. Écoutons le reportage de Frédéric Kena.
Il s'appelle Botam Silla. Il est prêt à tout pour supporter les Bafana Bafana, comme de traverser toute l'Afrique en autostop pour être derrière son équipe à la CAN.
L'initiative de faire de l'autostop pour assister à tous les matchs de mon équipe, c'est quelque chose que je fais toujours dans mon pays. En règle générale, je marche ou j'utilise tous les moyens de transport possibles. Donc je me suis dit, si je le fais dans mon pays, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire en Afrique ? Cape Town,
qu'est-ce qu'il fait ? Durant son périple, Botta a notamment traversé l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, la Tanzanie et le Kenya. Sur son chemin, Botta s'est toutefois heurté à quelques difficultés.
Pour traverser la Zambie ou rallier la Tanzanie, les routes sont catastrophiques. Aussi, de frontière en frontière, il y a le problème des devises qui se posent. En Tanzanie, on m'a vendu de faux billets. Mon autre problème, c'était la nourriture. J'ai parfois eu des allergies ou des diarrhées.
Arrivé en Éthiopie, Botta va connaître un coup dur.
Hello, South Africa.
Bonjour l'Afrique du Sud, je suis ici en Éthiopie avec mon ami Alouva. Il ne sera pas possible pour nous de traverser la frontière. L'aventure s'arrête là. Je pense qu'il est préférable de rentrer en Afrique du Sud.
Botta revient finalement au Kenya où les autorités sud-africaines et kenyanes vont l'aider à rallier le Caire. Son rêve se concrétise.
Ça nous a pris tellement de temps pour venir assister à un match de seulement 90 minutes. Rien de plus, juste 90 minutes à crier, à supporter nos joueurs et ensuite rentrer au pays. Quand je suis arrivé au Caire, je me suis dit, la mission est accomplie.
Au Caire, Botta est devenu la mascotte des Bafana Bafana. Il pense déjà à son retour triomphal.
Mon périple s'est arrêté prématurément en Éthiopie, donc j'aimerais à mon retour aller du Caire au Soudan, repasser par l'Éthiopie, arriver au Kenya et qu'on puisse m'assister pour que je rentre en avion en Afrique du Sud. Ensuite, je pourrais dire que j'ai bouclé la boucle.
La belle histoire de Botta Msila que vous pouvez revoir.
C'est super.
Hein, c'est incroyable. Ouais. Hein,
c'est émouvant, moi j'adore. J'adore.
Et les images sont très belles. Elles sont signées Dominique Fian et vous pouvez les voir sur les pages Facebook de RFI, de Mondial Sport ou encore de Radio Foot.
C'est un super personnage et puis il est tellement sudaf, quoi. C'est-à-dire il chante, il a cette voix, voilà. Enfin, moi tout ça, ça me renvoie à 30 ans en arrière quand j'habitais là-bas. Ça me fait tellement plaisir de voir quelqu'un qui a cette passion-là et qui aime son équipe même s'ils n'ont pas montré grand-chose. Mais voilà, ils peuvent peut-être encore se qualifier, ils peuvent voir encore un match supplémentaire et c'est du bonheur pour lui et il donne une super image de la Rainbow Nation, la nation arc-en-ciel.
Ouais, avoir fait tant de kilomètres, hein, c'est un résident de Bloemfontein qui est chômeur en plus, donc effectivement il avait
du
le temps,
state.
Mais voilà, traverser, s'engager dans cette aventure.
Chômé, excusez-moi.
attends, tu sais en ce moment le temps qu'il fait là-bas. C'est l'hiver austral. Hein. C'est-à-dire qu'il a quitté à Bloemfontein. En ce moment, ça gèle le matin.
Plus
qu'un
fait d'hiver.
Donc c'est un plus qu'un fait d'hiver. Exact.
Il a mis le temps pour changer passer d'étape par étape les températures. Et si vous allez sur le site de RFI, vous trouverez aussi les photos de Pierre-René Worms, l'envoyé spécial de RFI, le photographe, et vous verrez des très belles photos sur tous ces matchs. Allez, on passe au match de demain. David Finzel qui a trouvé cette chanson sur les
écureuils.
Internet, voilà.
Les écureuils du Bénin.
Oui, mais c'est surtout chanté par Willy Mignon. On a même son nom au personnage qui encourage ainsi les écureuils.
Ça a fait naître des vocations au niveau artistique. Il y avait une chanson
dans
aussi,
beaucoup de pays. Hein.
Mais chez les Béninois en particulier, il y avait une chanteuse notamment qui s'y est collée au moment du match qualificatif contre le Togo. Elle avait fait une super chanson pour eux. Là, il y a cette chanson aussi. J'ai l'impression que c'est un collectif là avec Willy.
Ouais.
Mais c'est super. Voilà, c'est ils sont là pour pousser, encourager. C'est...
Et on en trouve comme ça des chansons
partout.
Un peu partout hein, pour
Est-ce
encourager
que les auditeurs
les équipes.
Vous en envoient
On attend ouais. Toujours, mais on espère. Le match de demain, en tout cas, Bénin-Cameroun, les écureuils qui doivent décrocher leur qualification face au Lion indomptable. Alors après deux matchs nuls, contre le Ghana, on avait trouvé que c'était plutôt un bon point obtenu contre les Black Stars. Et puis là, contre la Guinée, on s'est dit que c'était un peu décevant. En tout cas, les écureuils joueront très gros dans le stade d'Ismaïlia. Jouer et gagner face à des Camerounais déjà qualifié. Est-ce que c'est trop difficile? Eh bien, vous allez l'entendre au micro de Frédéric Suteau. Michel Dussuyer, l'entraîneur, le sélectionneur, a préféré ironiser.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde jouer. C'est ça? On vient là et on fait les sparring partners. Non, vraiment. Bien sûr qu'on a beaucoup de respect pour cette équipe du Cameroun. C'est le champion d'Afrique qu'on affronte. Maintenant, on a du respect, mais on n'a pas de crainte non plus. Il y a un match à jouer. Tous les matchs, on les joue pour les gagner. Même si c'est des adversaires d'un calibre qui sont supérieurs au nôtre. Et le Cameroun est d'un calibre supérieur au nôtre. Mais chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner le match. Pour nous, l'important, c'est d'avoir bien récupéré. Parce que les matchs s'enchaînent vite. Et qu'on soit prêt. Et je suis sûr et certain que mes joueurs seront prêts mentalement pour faire un grand match.
Sûr et certain. Alors, on sait que cette équipe, elle, ça faisait longtemps qu'elle ne venait pas à la CAN et elle était venue avec beaucoup d'espoir. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à devoir disputer leur qualification face au Cameroun, Franck.
Non, le plan, c'était effectivement d'aller
l'assurer avant.
D'accrocher déjà le Ghana, qui était le gros morceau.
Ce qu'ils avaient réussi.
Ce qu'ils ont réussi avec ce match nul, 2-2. Et avec même des regrets, parce qu'ils se disent qu'ils auraient peut-être pu l'emporter. Et puis ils sont passés à côté de leur sujet contre les Djourtou de Guinée-Bissau, avec ce nul, un match assez insipide, un match soporifique même. Hein. Oui. Et du coup, on pensait que c'était l'adversaire où il y avait la matière à aller chercher les 3 points.
Bien sûr.
Ils auraient été avec 4 points, c'était bien avant d'affronter le champion d'Afrique. Là, c'est pas la même limonade, c'est très compliqué, même si le Cameroun... N'a pas forcément montré grand chose. Ils avaient même été un petit peu en danger lors du match précédent contre le Ghana à la fin.
Oui, parce qu'ils ont un problème d'attaque, surtout les Camerounais, je trouve, avec déjà l'attaquant de l'OM, Clinton.
Ah oui, il a des problèmes d'attaque tout le temps.
Tout le temps, voilà.
Et qui, mais, non, mais il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Enfin, en tout cas, son temps de jeu diminue beaucoup à l'OM et il y a bien une raison.
Là, c'est
ils vont
la
les vendre.
Coupe d'Afrique, oui. Hein, on va laisser l'OM.
Ils veulent le vendre.
Non, mais bon, on a quand même des joueurs en Ligue 1. Mais il est vrai que pour les Camerounais, là, ils cherchent clairement un nul leur suffit. Donc, à partir de ces moments-là, ça va être compliqué.
Attention, faut ils pas jouent, calculer
ils
quand même.
Hein. Parce ils feront peut-être
tourner aussi
les Camerounais. Ouh là là.
Oui, non, mais les Camerounais, c'est pas l'Algérie ou le Maroc avec 6 points. C'est une sélection qui a que 4 points jusqu'à présent et qui peut exposer sa première place et avec un adversaire d'un calibre de l'autre côté qui peut être plus fort et aussi basculer dans peut-être le mauvais côté du tableau si vous ne terminez pas à la première place. Alors il faudrait regarder.
C'est ça.
Moi, alors je sais pas, Annie, je dis peut-être des bêtises,
que
ça m'arrive.
On...
Mais
une
le Bénin, je le sens bien. Je pense que le Bénin est une équipe qui dérange les grosses équipes. C'est-à-dire que face à la Guinée-Bissau...
Oui, ils se libèrent plus facilement.
Bon, ils se retrouvent avec une certaine pression, il fallait valider, fallait gagner ils ont toujours pas gagné un match dans leur histoire
en cas de
la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, je crois que cette sélection béninoise, on l'avait vu lors des éliminatoires face à l'Algérie, on l'a vu face au Ghana,
je pense qu'elle
sait se sublimer justement face à des adversaires plus forts. Et justement, je pense qu'elle a un coach qui a l'état d'esprit suffisant pour pouvoir galvaniser ses hommes. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience. Je trouve que c'est quelqu'un qui travaille bien. Et je pense que cette équipe ghanéenne, alors je sais pas, hein, le Cameroun évidemment c'est très fort, mais je pense que cette équipe ghanéenne a des arguments pour réussir quelque chose face au Cameroun.
Béninoise.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit ghanéenne.
Béninoise, autant pour moi.
En fait, ils sont très forts physiquement, les Camerounais. Je vais y arriver.
Camerounais.
Les Lions indomptables, allez.
Mais après, il faut dire aussi que lors du match contre les Ghana, ils ont fait juste... Bon, c'était un match un peu plus faible, plus ennuyeux. Ils ont juste fait 5 frappes cadrées.
C'était le jour des 0-0.
Donc,
ils se méfiaient.
Ils
se méfiaient.
Oui.
Ils ont changé de stratégie. On avait un 3-4-3. C'était quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Quand on voit arriver cette équipe, on se dit... beaucoup de changements. Donc tout ça, en fait, ils avaient un petit peu peur de cette équipe du Ghana. Là, effectivement, je pense que...
Ça va être dur.
Vous avez raison tous, en vérité, parce qu'ils ont certainement aussi se méfié de cette équipe du Bénin qui est à l'aise contre un adversaire qui...
Et puis c'est Seigneur Stéphane qui a eu un peu du mal à se mettre en jambes et en rythme face à la Guinée.
Bon, oui, il est rentré
dans l'histoire de sa sélection nationale.
Qui ça?
C'est Seignon.
Ah oui, c'est Stéphane
Seignon. Qui n'avait pas disputé le premier match.
Oui, c'est vrai.
J'ai vu pour la première fois de ma vie, Annie, pour la petite anecdote, avec Franck, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, à Créteil.
Créteil-le-Mans.
Et on voyait un garçon sur le
côté. Jusqu'au bout, il faut aller au bout de l'anecdote.
La première fois que je le voyais, c'était Stéphane Seignon.
Non, va jusqu'au bout de l'anecdote. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire?
Ensuite, on se retrouve dans le couloir,
après
le vestiaire. Et je crois qu'il lui manquait un petit peu de petite monnaie pour acheter une boisson rafraîtissante. Il nous a gratté un petit peu de monnaie.
Il s'est bien débrouillé.
Il avait soif, c'était l'été.
Vous lui rappellerez un jour.
C'est un talent exceptionnel.
Ouais.
Bon, ben, on suivra ça demain sur RFI, bien sûr. Vous avez rendez-vous avec nos équipes et on y reviendra demain pour vous donner tous les rendez-vous. Mais évidemment, les matchs les plus importants seront sur l'antenne. Pour l'instant, Cindy, on part vers l'Amérique latine. Hein. Là, ça va être pour vous.
Aïe, aïe, aïe.
Et oui, ça donne du rythme, ces musiques sud-américaines.
Sur le terrain aussi ou pas?
Alors là, c'est autre chose. Je crois que c'est, voilà, exactement, c'est même peut-être un peu décevant parce que cette compétition, la Copa América, se déroule dans le pays de feu, le football samba, peut-on dire. Et malheureusement, eh bien, on n'a pas toujours beaucoup de spectacles. Une des demi-finales, on l'avait vaguement commenté, oui. Nabil, l'autre soir, puisque l'Argentine venait de jouer. On s'est retrouvé avec le Brésil et l'Argentine qualifiés. Alors, le Brésil, après les tirs au but, et ils ont un peu dompté leur passé par rapport au Paraguay.
Oui.
Par contre, l'Argentine, c'est la seule des quatre matchs qui a réussi à l'emporter grâce à des buts. Et malheureusement, c'était sans besoin d'aller jusqu'au tir au but.
Mais avec la VAR. Parce que, évidemment, ça a été la grande gagnante de la Copa América. Ah ouais. C'était soit les tirs au but, soit la VAR.
Et les grands perdants, malheureusement, c'était les Vino Tinto, c'était le Venezuela.
Ah, désolé, sorry.
C'était trop compliqué.
On n'avait pas l'arbitre de notre côté aussi. Hein, faut les dire qu'il y a eu la main des Foyt à un moment. Il n'a pas été vraiment marqué. Mais bon, okay, c'est pas grave. Non, en réalité, hors blague, l'Argentine s'est beaucoup améliorée. Il faut les dire.
Il était temps au troisième match. Sinon, il passait pas.
Non, mais enfin, il est comme ça, Scaloni. Il va au coup d'essai. Et donc, du coup, là, par rapport à l'équipe, en tout cas, qui nous a montré avec Lautaro Martinez, qu'enfin, il aimait, du coup, sur les terrains et qui a été très, très décisif et très difficile aussi pour les Vénézuéliens. Et El Kun Agüero, évidemment, ça commence forcément à ressembler à quelque chose. De notre côté, en tout cas, du côté vénézuélien, les Argentins, dès qu'ils ont marqué, ils ont commencé à reculer, bah, les Vénézuéliens ont avancé. À la deuxième mi-temps, on a vu quand on fait ses rentrées Martinez. Et ça, chez notre entraîneur Dudamel, ça veut dire que ça y est, c'est l'heure de l'attaque. Et malgré cela, les Vénézuéliens n'ont pas forcément réussi à gagner. Et c'est tout à fait normal.
Ça se termine comment alors, cette histoire?
Mal pour le Venezuela.
Et bah, ça se termine comme l'histoire comme du pays. Quoi. Non, mais il faut dire que les Vénézuéliens s'est quand même beaucoup amélioré au fil du temps. Après, on a eu un erreur très malheureux et très surprenant de la part des Falignes, parce que c'est quand même les vice-champions du monde des U20. Falignes, qui est un excellent gardien des buts et qui n'a pas réussi à attraper une balle, a fait même
le nez dans la farine.
Ça c'était un des deux quarts de finale, et celui-là se terminait par 2-0. Par contre, de l'autre côté, une fois de plus, on a eu des scores vierges et on a eu recours au tir au but. Résultat, l'Uruguay sort de la compétition.
Mais ça avantage
alors,
vraiment le
là aussi, la VAR a eu une énorme importance.
Hein. Je crois que c'était le VAR.
On dit toujours la VAR sur RFI.
En fait, on peut dire
VAR, pour nous, c'est le département.
Ah.
Non, mais c'est surtout la vidéo assistance. Et il y a d'abord le Pérou qui va finalement sortir grâce au tir au but. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. La Colombie, que vous voyez aller loin, Nabil, la Colombie va sortir.
La pièce a basculé quand même du bon côté, parce que je trouvais quand même cette équipe chilienne plus convaincante. Elle a eu deux buts d'ailleurs refusés sur intervention du VAR, et deux buts extrêmement limite, très sincèrement. C'est quand même incroyable l'intensité que met cette équipe chilienne. C'est incroyable. En fait, ils ont des joueurs de sélection. Ils sont cramés en club, certains, mais ils sont fantastiques avec la Roja. Vidal, bon, il n'est pas cramé, mais c'est un joueur fantastique. Mais je pense à Medel, à Isla, à Beau Séjour, latéral gauche de 35 ans. On sent qu'ils se connaissent parfaitement. On sent que c'est une équipe qui...
Ton cœur bat pour la
France. Ils ne sont pas les doubles tenants du titre.
Non, mais je veux dire, c'est les hommes que Bielsa a lancés il y a 7 ou 8 ans. C'est exactement les mêmes, quasiment.
Ça commence peut-être à vieillir un peu, non?
Non, mais ils sont là, Franck. Ils sont là, ils répondent présents face à n'importe qui.
Alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'on s'achemine encore vers un Argentine-Chili en finale pour la troisième fois?
Moi, j'aimerais bien que Messi...
Gagne qu'on fisse
de par clore ce débat, parce que par rapport à ce qu'il a donné au football, quelque part, ce serait injuste qu'il ne gagne rien avec sa sélection nationale.
Au-delà de ça, c'est l'équipe argentine maintenant qui a vraiment un très beau visage, et on ne peut que souhaiter qu'il gagne.
On verra ça, il y aura un Brésil-Argentine, ça sera très chaud, et on en parlera dans Radio Foot International, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. Merci beaucoup d'avoir animé ce Radio Foot International. Merci à David Finzel qui était là pour préparer l'émission. Il y avait aussi Laurent Salerno et l'équipe vidéo. On vous dit à demain, merci.